Bienvenue à vous tous, amis auditeurs. Nicolas Micro pour l'émission Lire et méditer. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi un ouvrage qui peut-être va nous sembler un peu à contre-courant. Un livre de Martin Stephens, que nous connaissons déjà. Martin Stephens qui est agrégé professeur de philosophie, spécialiste de Simone Veil, chroniqueur à la Croix. Il s'est imposé comme l'un des jeunes penseurs d'aujourd'hui par son traitement singulier, entre autres, de l'épreuve et de la joie, de la violence et du consentement, et de la mort et du corps. Nous avions déjà, avec lui, découvert d'autres ouvrages, notamment Marcher la nuit, que j'avais déjà présenté dans cette émission. Mais il en a écrit aussi d'autres, notamment « L'éternité reçue » ou « Vivre, croire et aimer »,« Rien que l'amour », etc. « Vivre ensemble », je crois, « La fin du monde » également. Et « Un petit traité de la joie, consentir à la vie ». Voilà en ce qui concerne ces ouvrages. Le livre que je vous propose s'intitule « Tu seras un homme, la virilité comme promesse ». Déjà, le livre... Dans l'avant-propos, il y a comme un avertissement donné au lecteur. Ce livre n'est ni une étude scientifique sur la masculinité, ni seulement un pamphlet en sa faveur. Il mêle dans un même souffle les raisonnements philosophiques et les anecdotes personnelles, l'analyse et l'exhortation, la patience et la colère, l'exégèse, biblique ou littéraire, et le recours à la culture populaire. C'est somme toute ce que l'on appelle un essai. Son but est d'inviter un certain regard sur l'homme dans sa relation à son corps, à la femme et au monde. S'il y parvient, l'essai sera, comme l'on dit, en un sport connu pour son engagement viril, sera donc transformé. À l'heure où le patriarcat, en tant que système social d'oppression, commence à se déliter, nous nous trouvons devant une alternative. Ou bien l'on croit qu'on élèvera d'autant plus les femmes qu'on rabaissera les hommes, ou bien nous ferons pour les garçons arrivant en ce monde le vœu qu'ils sont en tant que tels une bonne nouvelle. Car chacun porte en soi la promesse de ce que l'autre a de meilleur. Ce n'est pas en détestant les hommes que nous respecterons les femmes. Plus libres d'aller au monde, les femmes seront aussi plus exposées. Elles ont donc besoin d'hommes en qui mettre leur confiance, d'hommes consistants. Annoncer aux jeunes hommes que leur virilité les oblige à ce qu'ils ont de meilleur, c'est cela aussi lutter contre le patriarcat. Alors bien sûr, dans ce livre, vous verrez, c'est un livre généreux, critique aussi, lumineux, qui appelle contre la confusion à une vraie libération. Et je vais vous en donner tout de suite la table des matières. La table des matières. Dans un premier temps, donc quelques notions. L'ayant droit, la rhétorique du droit, le cauchemar unisexe, la femme face à l'homme, des larmes d'impuissance, la lutte des sexes, circulation des luttes, l'abstraction, une promesse à tenir. Et puis ensuite, ce sont des grands chapitres qui sont proposés. Donc le premier, c'est consister, prendre, différer, être père et se déprendre. Avec bien sûr différents paragraphes. Donc, consister par exemple combattre, enceinte, etchenemo, infantilisme généralisé, du père perdu, etc. Alors, comme ça, ça peut sembler très vague, mais en fait, il y a une très bonne lecture que nous propose Martin Stephens sur ce thème « Tu seras un homme ». Il est bon, bien sûr, je passe l'introduction, mais qui est toutefois capitale. Hein, et c'est très important d'aller dans l'introduction. Dans ces différentes parties aussi que je vous ai lues comme une préparation à la lecture. Alors, je vais juste prendre un petit peu l'ayant droit. Voilà, je vais vous lire juste ce petit passage. La femme du XXIe siècle est enfin reconnue comme un ayant droit. Le problème est-il résolu ? Question. Il faut s'arrêter sur cette idée de droit. Dans La personne et le sacré, Simone Veil écrit : le droit ne se soutient que sur un ton de revendication. Et quand ce ton est adopté, c'est que la force n'est pas loin. À la notion donc de droit, Simone Veil préfère celle de justice. Le droit déclare à voix forte « Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre ». Mais puisqu'un droit se revendique, c'est surtout dire par là que ma liberté commence là où s'arrêtera enfin celle de l'autre. C'est la logique commerciale, dit Simone Veil, de la place au soleil. La justice, au contraire, affirme que ma liberté ne commence que là où commence celle de l'autre. Car nul n'est libre si l'ordre n'est pas juste. D'un côté, donc, on affirme son droit contre celui de l'autre, comme deux enfants se disputent un jouet, comme deux parents en instance de divorce se disputent leurs enfants. De l'autre, on cherche la justice en laquelle toi et moi avons déjà notre place, en laquelle je n'aurais pas ma place si tu n'avais la tienne. La justice entendue comme ajustement des rapports afin que l'harmonie prévale n'ignore certes pas les rapports de force, mais elle prévoit de les faire entrer dans un jeu qui précède ces rapports de force et sauve les droits de l'un comme ceux de l'autre de leur délire de toute puissance. Le droit que l'on se revendique, rien ne l'arrête s'il ne se sent obligé par cette justice plus grande que lui. Autrement dit, sans le soin primordialement pris de la justice, mon droit n'est que puissance. Aujourd'hui, les droits de la femme sont hantés, comme ceux dont jadis l'homme jouissait sans avoir même à les revendiquer par une identique volonté de puissance. Cela n'est pas le fait des femmes désireuses d'égalité ni du féminisme. C'est simplement mécanique. Sitôt adoptée la rhétorique du droit, nous nous considérons spontanément comme une force. Or, une force occupe par nature tout l'espace qu'elle peut occuper. Le matriarcat, s'il devait advenir, ne serait jamais qu'un patriarcat dont la première lettre a changé. Ou plutôt, la femme au pouvoir, c'est un patriarcat féminin. Ce qui est marqué à chaque fois, c'est la relation. Ce qui se racornit sous mon petit droit, c'est la possibilité de t'y ménager une place. Si la notion de droit suggère le primat du rapport de force, alors ce qu'elle interdit, in fine, c'est la précédence de la relation sur les termes qu'elle relie. Extrait toujours de Simone Veil, La personne est sacrée, les écrits de Londres et dernières lettres. Si l'on dit à quelqu'un qui soit capable d'entendre « ce que vous me faites n'est pas juste », on peut frapper et éveiller à la source l'esprit d'attention et d'amour. Il n'en est pas de même des paroles comme « j'ai le droit de ». Vous n'avez pas le droit de. Ces paroles-là enferment une guerre latente et éveillent un esprit de guerre. La notion de droit mise au centre des conflits sociaux y rend impossible de part et d'autre toute nuance de charité. Alors après, l'ayant droit, il y a, et c'est très intéressant, il faut vraiment parcourir d'une manière, je dirais, chronologique, en tout cas au fil des pages, parce qu'il y a une véritable, un véritable processus aussi de compréhension, très intéressant, avec des notions peut-être qui, à nous, bien évidemment, peut-être nous échappent. Donc il y a ensuite, toujours dans cette très belle introduction, la rhétorique du droit, que j'aurais aimé vous lire, mais sinon on s'en sort plus. Et puis, le cauchemar unisexe, hein, ça aussi, c'est très, très important. Je voudrais donc sauter toute cette grande partie de l'introduction et vous lire juste un tout petit extrait du grand paragraphe, du grand chapitre intitulé « Consister ». Tu seras. Mais sait-on au moins ce que ce fils doit devenir pour être un homme? En quoi ça consiste, un homme? Première parole, premier envoi. Un homme, d'abord, ça consiste. Être un homme, c'est être un homme. C'est gagner en consistance ce que l'on perd en indétermination. C'est peu à peu devenir réel, c'est-à-dire davantage capable d'opposer sa force au cours dissolvant des choses. Être un homme, c'est commencer par cesser d'être autre chose qu'un homme. Une ombre qui passe, une feuille morte qui va et qui vient, un être sans consistance. Le drame le plus grand pour les femmes et les hommes serait que l'homme, parce que la femme se lève, ou bien s'arc-boute sur son passé de dominant, ou bien se délite, s'absolve, s'abdique comme homme. Parce que la femme se lève, l'homme nourrit la tentation de se morfondre, tentation de l'immaturité des mille lâchetés, au lieu d'étreindre cette femme comme pour lui souhaiter la bienvenue dans le monde de la liberté. Pour une telle étreinte, il doit lui-même être debout. Ainsi, avant de se demander à quoi un homme doit donner sa parole, son courage ou sa force, il faut poser comme première condition qu'un homme doit avoir une parole, du courage et de la force, jusqu'à cette forme si rare de la force dont parle Céline, celle qui est pitoyable aux hommes. Pitoyable, dans ce sens, ici, indique l'amour et la compassion. Avant de se demander si un homme est un bon citoyen, sujet de droit, éduqué, policier, bien conscient que son monde s'arrête ou commence celui de l'autre, il faudra lui souhaiter d'être vraiment un homme, qu'un homme renonce à l'affirmation brutale de sa puissance, évidemment, qu'il donne son énergie à de nobles causes, bien sûr, mais il doit pour cela se posséder comme homme. Si l'on ne possède que pour donner, on ne peut toutefois donner que ce que l'on a. Le prérequis et donc que l'homme, en ces temps douloureux où tonne quelque chose comme une guerre des sexes, n'ait pas honte de sa masculinité. Osera-t-on parler ici de virilité ? Car au fond, la virilité au sens où l'on entendrait par elle la vertu propre aux hommes, c'est cela, une vigueur inemployée, un surcroît de puissance et de vie qui inspire confiance. La virilité est, empruntée à Aristote, une puissance qui ne sait encore ce dont elle est l'acte, mais qui se sent assez prête, assez assurée pour se risquer à plus qu'elle-même. La virilité est une assise que l'on devine solide sans l'avoir encore éprouvée. Subjectivement, être viril, c'est sentir que l'on est quelque chose et non pas plutôt rien. C'est le sentiment intérieur de sa propre consistance. Extérieurement, c'est percevoir ce que pourrait un être s'il le voulait, c'est-à-dire savoir intuitivement que l'on peut compter sur lui. L'image qui m'en vient est un arbre sur lequel viennent se poser beaucoup d'oiseaux et qui porte du fruit. La virilité n'est pas tant ce qui en impose que ce sur quoi l'on sent que l'on peut reposer. Et si les femmes, en tant qu'elles sont libérées, sont aussi plus immédiatement exposées au combat du monde, nous avons aujourd'hui besoin d'une vertu qui, telle la virilité, leur offre ce socle qui donne confiance. On dirait de l'homme viril, comme on le disait jadis de Dieu, qu'il pourvoira, qu'il sera à la hauteur. À la hauteur de quoi ? On ne sait pas encore. À la hauteur du hasard et des circonstances, de tout ce qui fait de l'avenir quelque chose qui n'est pas encore écrit et qui, pour cette raison, requiert qu'on en prenne le risque ? La virilité se reconnaît à ceci qu'elle donne, à qui la possède ou l'identifie chez l'autre, le goût de l'avenir, le sens du projet, du saut, c'est-à-dire le projet, si vous détaillez les deux syllabes, ce saut dans le vide. Un homme que l'on sent ancré dans sa vie fait, sans même s'en rendre compte, la promesse d'une existence sans coup bas, sans trahison, sans souffrances inutiles. Il a les moyens de sa fidélité. Par lui nous est faite la promesse d'une vie consistante. Je vous propose donc d'aller un peu plus loin, de prendre un autre chapitre, le chapitre vers la fin, évidemment, « Être père ». Voilà ce qui me semble. Alors là, c'est vraiment très, très beau. Il y a des petits paragraphes, enfin plutôt des petits chapitres, des sous-chapitres qui sont très, très intéressants. Franchement, je vous invite véritablement à en prendre connaissance. Alors, dans ce « Être père », je vais prendre le premier petit chapitre qui s'intitule « Ou bien, ou bien ». Le jeune homme d'aujourd'hui évolue dans une situation passionnante. Passionnante parce qu'il lui est demandé rien moins que ceci. Consentiras-tu à être ? Ou bien préféreras-tu peupler les limbes, ce pays des existences à demi ébauchées ? Cette croisée des chemins entre l'être et le néant est chose rare, mais passionnante aussi au sens de ce qui relève de la passion, de la croix, qu'il faut consentir à prendre si l'on veut s'exposer pleinement à la vie. Car le jeune homme d'aujourd'hui est entre deux ou bien, dont le choix en faveur de l'un exclut si radicalement l'autre qu'un tel choix suppose une décision au sens fort, au sens existentiel. Non seulement il y a un choix à faire, mais une option de tout l'être pour ce choix, sans retour possible. Alors, quels sont ces « ou bien » ? Le jeune homme d'aujourd'hui appartient à une génération qui, ou bien n'aura jamais d'enfants, dans ce monde impossible, ou bien en aura 3, 4, 5, 6, pressentant que nous ne rendrons le monde à nouveau possible que s'il y a des enfants pour venir l'habiter aussi longtemps donc que l'homme consentira à en avoir. Génération à la fois tournée vers le futur, comme l'est toute jeunesse, et conservatrice, puisqu'elle sait que si l'on parvient ne serait-ce qu'à conserver l'avenir, ce sera déjà bien. Génération sans ambition, donc, ou qui a l'ambition la plus grande. Que l'aventure de la vie soit offerte à celles et ceux qui suivront. Génération qui aspire au fun, puisque c'est la seule chose que l'on exige d'elle. Éclate-toi, fais-toi plaisir, l'important est de s'écouter, etc. Mais dont le fun a quelque chose de désespéré. Cette génération se reconnaît toujours dans l'anti-héroïsme suicidaire d'un Kurt Cobain qui fut un cinglant démenti à la tête de la génération 68. Comme une manière de dire « Vous vouliez que l'on plane, mais nous ne savons que plonger dans la drogue, comme vous, mais dur, dans la violence aussi. » Et parfois, pour un nombre grandissant de jeunes gens, dans les eaux du baptême. Donc, nouvelle génération aussi de croyants qui n'ont plus peur de dire, de le dire et de le vivre. Génération à qui l'on a voulu faire croire que l'histoire était finie, à la mode marxiste ou capitaliste, mais qui a su d'elle-même que sous les pavés de l'Empire romain catholique, il y avait la plage, certes à ceci près, que c'était celle du Club Med. En réalité, après les 30 glorieuses, après la décomposition massive de la famille, après les assauts sans nombre de la plus crasse vulgarité télévisuelle, après Tchernobyl, Fukushima, les jeunes gens qui ont actuellement entre 15 et 35 ans se trouvent face à ce choix. Ou bien, pour reprendre un concept cher à Philippe Lacoula-Barthe, ou bien la désistance, accompagner la catastrophe, ou bien au contraire la résistance, ou comme on l'a nommé, la consistance, la volonté d'offrir prise au réel avec la conscience aiguë de la fragilité de ce à quoi l'on tient. Puisque la décomplexion tranquille est interdite et cette génération trop lucide pour ne pas savoir que la vie est parfois grave, il lui reste ou bien à désespérer de l'humanité, ou bien à ne l'aimer que davantage, à en épouser plus directement le risque. Il se pourrait bien que naissent beaucoup de saints dans ce monde conçu pour ne produire que des jouisseurs satisfaits. Ou bien, c'est évidemment une œuvre de Kierkegaard. Il en va en effet, comme l'a thématisé ce philosophe danois, d'un saut hors d'une mortelle indétermination. Faire le saut, c'est consentir à lutter contre l'éparpillement de soi, contre l'atomisation de son être, contre l'autonomisation de ses désirs. D'un côté, la sexualité, de l'autre, la vie affective. Ici, la vie intellectuelle et, ou là, la vie spirituelle. C'est consentir donc à cet effort pour tout tenir ensemble, afin de présenter à Dieu, à la fin, une vie qui tienne d'un bloc, une offrande qui soit, sinon pure, entre guillemets, comme le voudrait la formule liturgique, mais au moins une, unifiée et non pas éparpillée. Bien sûr, on sait pourquoi c'est aujourd'hui si difficile de résister à l'éparpillement de soi. Nos parents, se disent les enfants de divorcés, se sont tellement trompés que l'on préfère prendre les devants. En refusant de monter haut dans l'exigence d'un engagement, on se dit que l'on tombera, puisque c'est sûr, on tombera, mais que l'on tombera d'un peu plus bas et que cela fera moins mal. Mais quitte à tomber, pourquoi ne pas tomber franchement? Pourquoi ne pas prendre le risque d'aimer? Cette génération n'a au fond plus rien à perdre. Pourquoi? Quand elle dit « pourquoi pas », elle ne dit pas forcément « à quoi bon ». Elle ne dit plus « expérimentons tout et son contraire sans entrave ». C'est plutôt que dans la nuit de l'esprit que nous traversons, que beaucoup d'esprits libres ont appelé de leur vœu, la jeune génération a aperçu la lueur du bien, vacillante, fragile, comme tout ce qui est beau, mais plus éclatante aussi. Elle se dit « pourquoi pas ?» Elle se dit qu'elle peut apporter à cette flamme, pour la nourrir, les brindilles de civilisation qui lui restent et la grande vie infatigable qui l'habite. Voilà mes auditeurs, donc pour cet ouvrage « Tu seras un homme » de Martin Stephens. Et vous connaissez sans nul doute le texte de Rudyard Kipling que je vous propose d'écouter en conclusion, interprété ou lu plutôt par Imouvrine, Jean-François Bernardine, avec Grand Corps Malade. À la semaine prochaine.
Se tu puoi vedere strutta l'opera e adoita.
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie.
Et sans un chaparulla mette di a costruire.
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir.
Perdere una volta ostanto i 100 partite.
Ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties.
Senza gesto, senza un sospiro.
Sans un geste et sans un soupir.
Se tu puoi essere amante senza un pazzo d'amore.
Si tu peux être amant sans être fou d'amour.
Se tu puoi essere forza e sempre tenerezza.
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre.
Sente di odiato senza portarne odio.
Et te sentant haï sans haïr à ton tour.
Eppure lutta e difenditi.
Pourtant lutter et te défendre.
Se tu puoi supportare disante e dobarule.
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles.
Travestite dai gorci per compiaggia ai bazzi.
Travesti par des gueux pour exciter des sots.
Sente dante ugie le bocche sceme.
Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle.
Senza du bugiarda una barulla sola.
Sans mentir toi-même d'un seul mot.
Se tu puoi ferma degno e popolare.
Si tu peux rester digne en étant populaire.
Se tu puoi ferma populo e consigliare i re.
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois.
Se tu puoi denegare i d'amici come fratelli.
Si tu peux aimer tous tes amis en frères.
Senza che nessuno sia tutto per te.
Sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi.
Se tu sai riflette, apre l'occhi e conosce.
Si tu sais méditer, observer et connaître.
Senza mai diventa niscente o distruttore.
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur.
Sunia, senza lasciar sogno esse o do maestro.
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître.
Pensa, senza aver mai pensatore.
Penser, sans n'être qu'un penseur.
Se tu puoi essere forte senza un palmo in rabbia.
Si tu peux être dur sans jamais être en rage.
Se tu sai essere buono, se tu sai essere sabio.
Si tu sais être bon, si tu sais être sage.
Senza pausa bientone.
Sans être moral ni pédant.
Se tu puoi rencontrare trionfo dopo disfatta.
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite.
Riceve si bugiardi con gli stessi fronte.
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front.
Se tu puoi mantenere cervello e coraggio.
Si tu peux conserver ton courage et ta tête.
Quando tutti gli altri perderanno.
Quand tous les autres les perdront.
Allora i re, i signori, a fortuna e a vittoria.
alors les rois, les dieux, la chance et la victoire
saranno per sempre i tuoi schiavi sottomessi.
Seront à tout jamais tes esclaves soumis.
Et meglio che il re, meglio che la gloria.
Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire.
Sarai un uomo, figliolo.
Tu seras un homme, mon fils.
Sarai un uomo, figliolo.
Tu seras un homme, mon fils.